Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points. Trois
petits points.
Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points est un podcast littéraire animé par Alix Lane et Julie Mamoumani. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiée à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles, comme la première féministe, Claire de Duras, ou Germaine de Staël, sa femme Céleste, et ses innombrables maîtresses, dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des auteurs contemporains sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la Vallée aux Loups et le département des Hauts-de-Seine.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Les femmes et Chateaubriand. Et aujourd'hui, nous recevons Laurence de Cambronne. Bonjour Laurence.
Bonjour Alix, bonjour Julie.
Bonjour Laurence. Alors Laurence, vous êtes journaliste et auteur. Vous avez publié une biographie de Germaine de Staël chez Alary Éditions. Madame de Staël et Chateaubriand ont le même âge. Ils ont fait face aux mêmes bouleversements politiques et sociaux. Et ils sont tous les deux considérés comme les représentants du mouvement littéraire dit le pré-romantisme. Mais on serait tenté de dire que les ressemblances s'arrêtent là.
Pour commencer, Laurence, qui est Germaine de Staël?
Germaine de Staël et Chateaubriand se rencontrent en 1800. Quand ils se rencontrent, elle est très connue, c'est quelqu'un de très connu. Lui est un total inconnu puisqu'il vient de passer 8 ans à Londres en exil et qu'elle, elle est connue depuis très longtemps parce que c'est la fille du ministre des Finances de Louis XVI, Jacques Necker. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque Louis XVI lui demande d'être son ministre des Finances, il est tellement riche qu'il demande de ne pas être payé. Mais non seulement il ne va pas être payé pour cette charge, mais il va prêter de l'argent au pouvoir royal. Il va prêter 2 millions de livres à Louis XVI. Donc c'est un homme immensément riche. Il a créé la première banque française, c'est une banque protestante, lui est de Genève, il est venu, il a créé cette banque, il a fait fortune dans la spéculation des grains, la vente des possessions françaises au Canada, bref, il est très riche. Sa femme, elle, est une huguenote aussi de Genève, qui a décidé de faire de leur fille unique, Germaine, qui est née en 1766, une bibliothèque vivante. Cette femme est obsédée et dès l'âge de 6 ans, cette petite fille va avoir des cours de latin, de grec, d'arithmétique, de géométrie, de lettres. Bref, c'est devenu une bibliothèque vivante à tel point que elle a le droit d'être dans le salon de sa mère, parce que sa mère a un salon littéraire à Paris, où elle reçoit Diderot, Beaumarchais, Buffon. La petite fille a le droit d'être sur un petit tabouret. Il ne faut pas qu'elle parle, mais elle écoute. Elle a le droit d'écouter. Donc, d'ailleurs, elle est présentée à Voltaire à l'âge de 12 ans, et Voltaire est assez éberlué quand elle lui dit qu'elle a déjà lu Montesquieu. Donc, c'est quand même un phénomène, un personnage, un enfant prodige, en fait, cette Germaine. Alors, elle va habiter à la cour à Versailles avec son père, sa mère, dans les années 1780, quand son père est ministre. Donc, elle va connaître les gens qui passent à la cour, toute l'Europe entière qui défile à la table de son père. Et elle, elle est très à l'aise, elle est tellement à l'aise qu'elle écrit son premier livre à 18 ans sur le caractère de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Bref, arrive la Révolution, elle est très séduite par les Lumières, elle est très séduite par les idées des premiers révolutionnaires, à tel point qu'elle va à l'Assemblée nationale, aux séances de l'Assemblée nationale, ils sont tout un groupe de jeunes aristocrate, Mathieu de Montmorency, Stanislas de Clermont-Tonnerre, et ils vont à l'Assemblée nationale. C'est le groupe des 47 nobles qui ont pris parti pour le tiers-État. C'est pas rien, quand même. Donc, elle est séduite. Elle a déjà des idées politiques très claires. Elle pense que la France devrait abandonner la monarchie absolue et avoir une monarchie constitutionnelle et parlementaire comme il y a en Angleterre. Donc, elle a ses idées. Et puis arrive la Révolution, la Terreur. Elle part en Suisse dans le château de son père à Copé, au bord du lac Léman. Pendant ce temps-là, on en revient à Chateaubriand. Chateaubriand est à Londres. Bref, elle revient au moment du Directoire à Paris et elle va rencontrer Bonaparte. Parce qu'elle est assez séduite par Bonaparte. Elle se dit, cet homme va nous sortir de tout le chaos dans lequel on a été. Mais elle s'entend très mal avec Bonaparte. Parce que Bonaparte, elle lui dit, quelle est pour vous la femme la plus intéressante? Et Bonaparte lui dit, celle qui fait le plus d'enfants. Donc elle comprend que...
Elle qui est un peu rebelle, elle est libre.
C'est une femme politique, elle a des idées politiques surtout.
On n'a pas pu lui imposer son mari visiblement, elle a été assez rebelle aussi sur ce choix-là, n'est-ce pas?
Ça c'est assez drôle parce que... Donc ils sont protestants, donc les parents ont dit on veut que tu épouses un protestant. Et le père voulait qu'elle épouse William Pitt qui va devenir le premier ministre d'Angleterre à 24 ans. Premier ministre, et elle dit hors de question car je ne veux pas aller habiter Londres. Elle veut rester à Paris. Alors, elle jette son dévolu sur ce jeune Suédois un peu incolore, inodore et sans saveur, criblé de dettes. Il a perdu tout son argent dettes de jeu. Necker va renflouer et va rembourser les dettes. Et ce jeune Éric de Staël, donc, va devenir son mari. Elle l'a jamais aimé. Elle va avoir des tas d'enfants qui vont s'appeler Staël, mais qui ne seront pas d'Éric de Staël, qui seront de ses amants. Elle va avoir un nombre d'amants incroyable. Donc, ils habitent à Paris, à l'ambassade, parce que lui a quand même réussi à se faire nommer ambassadeur de Suède à Paris, un peu de surface. Et donc, ils vivent à Paris les premières années 1788, 89, 90, voilà.
Et dans quelles circonstances rencontre-t-elle Chateaubriand?
Alors, dans quelles circonstances? Ça démarre très mal, l'histoire de Madame de Staël et Chateaubriand, parce que Chateaubriand arrive à Paris clandestinement. Il n'est pas autorisé à être sur le sol français, puisqu'il est sur la liste des émigrés qui ne peuvent pas rentrer en France. Donc, il arrive clandestinement. Il se trouve une petite chambre rue de Lille. Et il a un ami, Louis de Fontane, qui est critique littéraire au Mercure de France, au journal Le Mercure de France. Il lui dit, bon, ben écoute, il écrit une critique sur le livre de Madame de Staël, de la littérature, le livre qui vient de sortir. Et lui, il y va à fond, il dit, le style est monotone, sans mouvement et trop mêlé d'expressions métaphysiques. Bref, il l'enfonce. Et Madame de Staël, qui est un personnage quand même étonnant, non seulement n'a aucune rancœur, mais va aider Chateaubriand à le faire rayer de la liste des immigrés. Parce qu'elle connaît tout le monde, elle connaît Bonaparte, elle connaît la sœur de Bonaparte, le frère de Bonaparte, elle connaît Fouché, le ministre de l'Intérieur, et elle le fait rayer 6 mois après cette critique. Donc non seulement elle lui en veut pas, mais elle l'aide. Elle le trouve aussi joli garçon. Elle aime tellement les hommes, donc...
Ils se sont bien trouvés.
Oui. Mais enfin, lui, il est un peu interloqué par cette femme qui prend tellement de place, qui a tellement... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au même moment, c'est-à-dire entre 1800 et 1802, elle écrit Delphine, qui est le premier roman d'amour. Avant, on n'écrivait pas de roman. Elle écrit un roman parce qu'elle pense que les sentiments, c'est très important. Elle a lu Goethe, elle a lu Les souffrances du jeune Werther. Elle a dit, mais c'est ça qu'il faut écrire, l'amour, la passion et tout. Et lui, il écrit Atala, au même moment, qui est une histoire d'amour entre une jeune indienne en Amérique, un vrai roman d'amour. Et donc, ce sont les deux premiers qui ont écrit des romans. Avant, on n'écrivait pas de roman. Et des romans d'amour. Et donc, c'est drôle, parce qu'ils ont des idées très opposées, et en même temps, ça, je pense que ça les réunit. Ils sont des êtres sensibles, et c'est assez amusant, parce que finalement, c'est les deux premiers romantiques, c'est pour ça qu'on dit le pré-romantisme, c'est eux, c'est les deux premiers romantiques du siècle.
Vous dites aussi qu'ils entretiennent une relation émouvante. Pourquoi vous
l'avez dit? Oui, alors je dis émouvante, parce que justement, ils n'ont pas les mêmes idées. Chateaubriand est assez drôle parce qu'il dit « Moi, je vois Jésus-Christ partout et Madame de Staël, elle voit la perfectibilité de l'espèce humaine partout. » Ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Lui, à ce moment-là, dans ces années-là, il soutient Bonaparte, alors que elle, dès janvier 1800, elle s'est mise en opposition à Bonaparte ouvertement. Donc, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde politiquement non plus. Et malgré ça, je pense qu'il y a quelque chose, justement, de l'ordre du sentiment. D'ailleurs, Madame de Staël, son amie, c'est Pauline de Beaumont. Pauline de Beaumont reçoit Chateaubriand dans son salon quand Chateaubriand arrive à Paris. Et donc Chateaubriand va avoir une relation amoureuse très forte pour Pauline de Beaumont. Et quand Pauline de Beaumont va mourir, elle écrit une lettre mais bouleversante à Chateaubriand. Donc ça, c'est en 1803, donc 3 ans plus tard. Elle lui dit « Ah mon Dieu, my dear Francis !» Parce qu'elle l'appelle toujours son « dear Francis ». Je pense que c'est parce qu'il revenait de Londres, il avait passé 8 ans à Londres, il devait parler anglais, il devait avoir des expressions anglaises, et elle l'appelle « mon dear Francis ». Elle dit « Je vous aime, j'aimais celle que vous regrettez, je serai une amie dévouée, je serai pour vous une sœur !» Plus que jamais, je dois respecter vos opinions. C'est assez drôle, parce que donc ça montre bien qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Adieu tendrement, douloureusement, adieu. Elle est tellement enflammée, cette Madame de Staël, toujours. Mais ils sont sur un registre presque sentimental, sans qu'il n'y ait jamais eu quoi que ce soit entre eux, parce qu'elle, elle est... je pense qu'il la trouve un peu assez moche, parce que lui, elle n'est pas belle, Germaine de Staël. Elle est très impressionnante, très intéressante, très intelligente, mais c'est pas une belle femme.
Il aime son caractère et puis aussi peut-être ses positions politiques, son opposition
à
Napoléon.
Alors, après, à partir de 1804, à la mort du duc d'Enghien, il va basculer. Lui qui soutenait Napoléon, donc, il se met dans l'opposition et il compare Napoléon à Néron. Et donc, en 1804, il est dans l'opposition et il rejoint Madame de Staël à ce moment-là. D'ailleurs, il va aller voir Madame de Staël à Copé, sur les bords du lac Léman, dans son château, et il va aller avec sa femme Céleste, d'ailleurs, et il ne la comprend pas, Madame de Staël, parce qu'il lui dit, écoutez, je ne comprends pas, vous êtes riche, vous avez un château merveilleux, vous recevez des amis, l'Europe entière vient vous voir, vous êtes au service de vos amis, vous avez des amants, vous avez des enfants, et vous dites que vous êtes malheureuse, mais... Si j'avais votre maison, je serais bien contente. Et elle, elle dit, oui, mais je suis en exil. Napoléon refuse que je vienne habiter à Paris. Et pour moi, c'est affreux. Ma vie est à Paris. Paris lui manque, quoi. Elle a l'impression d'être dans sa province de Suisse. Mais lui, c'est vrai qu'ils ne se comprennent pas très bien. Et c'est pour ça que je dis que c'est émouvant, parce qu'ils ne se comprennent pas très bien. Ils ont des idées opposées. Et pourtant, ils sont très proches. Ils se respectent d'abord, et puis ils s'aiment. Enfin, ils vont rester en contact assez peu, parce qu'elle va être en exil, et elle va partir en exil en Russie, en Suède, en Angleterre. Lui va acheter la Vallée aux Loups en 1807, donc il va s'enfermer dans la Vallée aux Loups, il va écrire, et ils ne vont pas se voir pendant presque 10 ans, enfin 8 ans.
Ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle, elle est voltairienne, bon, protestante, vous l'avez dit, agnostique. Elle, elle voit dans la philosophie les germes du progrès humain. Quand Chateaubriand, lui, bah, il crie au génie du christianisme.
Voilà.
Donc ça aussi, c'est assez drôle. D'ailleurs, il dit, il attaque son relativisme religieux, allant jusqu'à écrire à cette amie Fontane, qu'ils ont en commun, « Sans religion, on peut avoir de l'esprit, du talent, mais il est impossible d'avoir du génie. »
Oui.
En fait, elle n'en tient pas rigueur, quoi.
Non, alors je crois qu'elle a été habituée dans le salon de sa mère à ce qui est beaucoup de débats, d'idées, et qui est beaucoup de gens qui ont des opinions différentes. Elle a toujours vécu ça, et elle aime le débat. Elle aime mettre en contact des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Voilà. Et donc, elle le respecte. Et Dieu sait qu'elle n'aime pas la religion catholique, parce qu'elle est protestante, et elle trouve que la religion catholique, c'est une religion de la souffrance, qu'on glorifie la souffrance. Et elle trouve ça insupportable. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes idées, en tout cas à ce niveau-là.
Ils ont également un rapport à la nature qui est différent.
Oh oui, alors ça c'est drôle aussi, parce que lui quand même, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, on a 100 pages là dans le premier tome sur les forêts d'Amérique. C'est un peu d'ailleurs, c'est un peu long, mais et elle, la nature, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est une cérébrale, c'est une femme d'idées, c'est une femme politique, c'est une femme amoureuse, mais alors la nature ne l'intéresse pas du tout. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses...
Beaucoup de choses qui les éloignent.
Qui les éloignent.
Et à la fois, en étant de la même génération, ils livrent des témoignages précieux de leur époque, mais de façon différente. Est-ce que vous avez un exemple ou un éclairage à nous donner là-dessus, par exemple ?
Elle, c'est une républicaine. C'est ça qui est assez intéressant chez Madame de Staël. C'est qu'elle a écrit un livre, d'ailleurs, pour soutenir la République. Et elle dit, au moment, juste après le directoire, là, elle dit c'est la République qui peut sauver la France, parce qu'il faut sortir. Elle a très peur des monarchistes. C'est pas une aristocrate, hein, Madame de Staël. C'est une bourgeoise.
Oui, c'est pas en ça, c'est très
différent.
Et
c'est pas pareil. Elle a épousé un aristocrate, mais elle n'a pas des idées pas monarchistes. Elle est républicaine. Et lui, non.
Oui, c'est ce que j'imagine la conversation entre les deux sur ce sujet. Oui.
Lui, c'est le génie du christianisme. Après, c'est le soutien à Bonaparte. Donc, il n'est pas du tout dans ce registre-là.
Il y a une correspondance fournie entre les deux.
Alors, j'ai retrouvé, parce que moi, j'ai toute la correspondance de Madame de Staël que j'ai trouvée dans une librairie. J'ai eu beaucoup de chance, parce que ça fait quand même une douzaine de volumes. J'ai recherché, il n'y a pas énormément, hein. Il y a quelques lettres, justement, en 1800, au moment de la... Mais elle parle beaucoup de lui avec Juliette Récamier. Elle lui dit « J'ai vu François-René de Chateaubriand qui vient d'écrire Atala. J'aime beaucoup cet auteur. » Elle est assez excitée par Chateaubriand à ce moment-là. Ils n'entretiennent pas une correspondance très importante. Hein.
Comme il a pu entretenir avec d'autres femmes.
Voilà.
D'accord.
Oui.
Parce que quand on sait qu'il voyait Claire de Duras 1 à 2 heures par jour, c'est son autre amie.
Oui, alors c'est après. Claire de Duras, parce que là, en fait, lui, il est voilà, de 1800 à 1805, il voit pas mal Madame de Staël. Et j'ai l'impression que Claire de Duras, c'est plutôt dans les années 1808-1820. Et oui. C'est l'époque où Madame de Staël n'est pas en France, donc il ne la voit plus.
Il ne la voit plus, c'est l'éloignement qui a...
Et alors arrive le fameux dîner, quand Madame de Staël revient d'exil, donc... Elle est à bout, cette pauvre Madame de Staël. Elle a eu 5 enfants, elle a eu des grossesses terribles, elle est partie dans des diligences, elle a traversé l'Europe, dans la neige, dans des voitures à cheval. Elle venait d'accoucher, enfin, je ne sais pas comment elle a tenu. Et d'ailleurs, elle tenait en prenant de l'opium tous les soirs, parce qu'elle ne dormait plus depuis la mort de son père. Elle n'arrivait plus à dormir. Et l'opium l'a usée. Elle est arrivée à 50 ans. Donc, en 1816, là, quand elle revient à Paris, elle est usée. Elle organise un dernier dîner au mois de mai. Et elle est tellement mal qu'elle est dans sa chambre, dans son hôtel particulier, rue 9 des Mathurins. Et elle organise le dîner au rez-de-chaussée. Elle a fait le plan de table et elle a mis l'un à côté de l'autre Chateaubriand et Juliette Récamier. Ils ne s'étaient pas vus, ils s'étaient aperçus 12 ans plus tôt, mais... Et là, elle entend le dîner depuis sa chambre, mais elle veut ne voir personne parce qu'elle est usée, elle est mal. Mais elle accepte que Juliette Récamier vienne la voir après le dîner. Et Juliette monte et lui dit « Vous savez que toute ma vie, les hommes ont voulu s'occuper de moi. Mais ce soir, Monsieur de Chateaubriand m'a demandé que je m'occupe de lui. Et je lui ai dit oui. » Donc, émotion, et c'est le début d'un grand amour. Donc, la grande histoire de Chateaubriand et Juliette Récamier commence en mai 1817 dans le salon de Madame de Staël.
Son dernier dîner.
Madame de Staël, c'est quelqu'un d'important. D'ailleurs, il le dit dans ses Mémoires d'outre-tombe, là, si vous voulez que je vous lise.
Volontiers.
J'adore ce passage parce que c'est vraiment... Peu de jours après, Madame de Staël changea de logement. Oui, elle habitait rue Royale et elle est allée rue des Mathurins. Elle m'invita à dîner chez elle, rue 9 des Mathurins. J'y allais. Elle n'était point dans le salon et ne put même assister au dîner. Mais elle ignorait que l'heure fatale était si proche. Oui, elle allait mourir un mois plus tard. On se mit à table. Je me trouvais assis près de Madame Récamier. Il y avait 12 ans que je ne l'avais pas rencontrée et encore ne l'avais-je aperçue qu'un moment. Je ne la regardais point, elle ne me regardait pas. Nous n'échangions pas une parole. Lorsque, vers la fin du dîner, elle m'adressa timidement quelques mots sur la maladie de Madame de Staël, je tournai un peu la tête, je levai les yeux. Et je vis mon ange gardien à ma droite. Et là, tout d'un coup, c'est le coup de foudre, quoi. Il la voit et il a dû lui dire « Occupez-vous de moi !» Et elle lui dit « Oui !» C'est une belle histoire quand même.
Merveilleux.
Merci beaucoup Laurence.
Merci à vous.
Merci Laurence.
J'étais ravie d'évoquer
ces deux personnages.
Ah oui.
Voilà, le podcast Les Femmes et Chateaubriand, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.